Position, opposition, manipulation, calcul. Les dessous parlementaires avec Mathieu Boivin.
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline.
Bonjour Mathieu Boivin.
Salut Paul.
Mathieu, évidemment là tous les scandales qui ont éclaté cette semaine concernant Éric Salvaille, Gilbert Rozon, notre collègue Gilles Parent, Michel Brulé, l'éditeur et tout ça, ça a eu ses échos à l'Assemblée nationale, mais on va en parler aussi d'ailleurs.
Là. Évidemment.
Mais il y a pas eu juste ça. On oublie que la semaine a pas commencé mercredi.
C'est ça, ma chronique, elle sert un petit peu à ça. À vous rappeler ce qui s'est passé cette semaine, à part ce dont tout le monde se rappelle.
Oui.
Lundi, c'était l'arrivée à l'Assemblée nationale de Geneviève Guilbeault, la nouvelle députée de Louis Hébert, qui a été élue, on s'en souvient, au début du mois, sous les couleurs de la CAQ, une victoire écrasante. Donc, assermentation de Mme Guilbeault, qui a rencontré pour la première fois les journalistes de la Tribune de la Presse. C'est autre chose, les journalistes de la Tribune, que ceux qui peuvent te suivre au quotidien dans ta campagne électorale ou dans ses anciennes fonctions au bureau du coroner. La balle venait un petit peu vite pour Mme Guilbeault. On a posé quelques questions, moi-même, je m'inclus là-dedans, très spécifiques à Mme Guilbeault sur la position.
Vous êtes chien avec Mme Guilbeault?
Ben, je dirais pas chien, j'ai fait mon métier avec... âpreté, disons, on va dire ça comme ça. Et j'ai posé quelques questions, des petites balles courbes à Mme Guilbeault. C'est quoi la position de votre parti sur les frais de garde? Est-ce que les CPE sont en surplus ou en manque de place? Des questions bien pointues. Malheureusement, Mme Guilbeault n'a pas été en mesure de répondre précisément, mais au moins, elle a dit, ben, écoutez, je vais me renseigner, puis dans les prochains jours, je serai en mesure de répondre à ce genre de questions-là.
Bon,
mais son
ça.
Baptême du feu a dû trouver un peu comme quelqu'un qui arrive dans la Ligue nationale. Oups! La POC roule un petit peu plus vite.
Alors ça, c'est lundi.
Lundi.
Évidemment, bon, c'est ce qui s'est passé au bureau, mais c'est pas majeur cette semaine. Mardi, par exemple, il y a quelque chose de majeur qui s'est passé. Évidemment, qui a été éclipsé par la vague de dénonciations d'harcèlement sexuel. C'est normal que ça ait été éclipsé. Là, c'est comme ça que ça arrive. Ça arrive parfois dans les médias. Il y a un événement qui vient cacher tous les autres.
C'est ça.
Mais mardi, c'est la vente de la C-Series de Bombardier à Airbus. C'est extraordinairement gros, ça, Mathieu.
Exact. Puis je m'excuse, je suis obligé de te reprendre. C'est même pas une question de vente. Hein? Il n'y a pas une scène qui est impliquée là-dedans.
Non, c'est
Airbus
ça,
met la main sur le contrôle de la C-Series.
Oui.
50,01% du départ de ce programme aéronautique-là, contre essentiellement rien du tout.
Mm.
Juste mettre au service de ce bijou technologique québécois-là tout son service de vente, tout son réseau de déploiement. Airbus, c'est énorme, beaucoup plus gros que Bombardier. Et ça se trouve donc à venir mettre au service de la C-Series toute une crédibilité, toute une infrastructure financière puis de force de vente que Bombardier n'avait pas. Et Bombardier, très fragilisé, on ne reviendra pas là-dessus, par les droits compensateurs américains et par tout un paquet de problèmes avec les commandes qui n'entraient pas essentiellement dans la dernière année. Donc,
mais il y a peut-être quelque chose que tu peux m'expliquer, Mathieu, là, c'est que on n'a pas pris des actions existantes qu'on a vendues à Airbus. Ce qu'on a fait, c'est que on a donné la majorité des actions pour que Airbus soit en contrôle de la C-Series. Ce qui fait en sorte que le 1,3 milliard d'argent public qui a été investi dans Bombardier, qui valait un certain nombre d'actions, ben c'est comme si la proportion de ces actions-là avait diminué.
Totalement. Donc, c'est ce qu'on appelle une dilution.
C'est ça.
Sauf que, du côté du gouvernement, on dit, aimes-tu mieux avoir 19%, ça c'est la portion qui reste à Investissement Québec dans la nouvelle entité, non? Est-ce que t'aimes mieux avoir 19% de quelque chose qui vaut beaucoup ou 49% de quelque chose qui vaut de moins en moins?
Ouais, c'est
parce
sûr.
Que... Bon, OK, ça, c'est l'argument du gouvernement.
Ouais.
Chacun va se faire une idée là-dessus. Est-ce que c'était la seule solution prévisible quand on est réaliste que de se donner à Airbus? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une braderie épouvantable qu'il faut dénoncer sur tous les toits? Je te fais entendre le premier ministre Philippe Couillard et ensuite les commentaires du chef péquiste Jean-François Lisée et ceux du chef de la CAQ, François Legault, sur cet enjeu-là, donc de la cession du contrôle de la C-Series à Airbus.
Vendre des avions, ça fait faire de l'argent. Pas vendre d'avions, ça fait pas faire d'argent. Puis on n'en vendait pas depuis un certain temps, s'il l'a remarqué. Et la seule façon dont on pouvait récupérer l'accès au marché, c'est de s'allier à un partenaire stratégique. C'est pas compliqué, il y en a trois. Boeing, Airbus ou les Chinois, lequel ils auraient choisi.
On vient de leur donner, on ne s'est pas allié à eux, on leur a donné 51%. Alors qu'ils arrêtent de fanfaronner, on a donné notre avoir le plus précieux.
C'est très surprenant aujourd'hui de voir qu'il se réjouit. Si j'étais à la place de M. Couillard, là, je serais déçu en tabarnouche.
Tabarnouche, ça c'était le mot que M. Couillard, un peu bizarrement, parce que c'est pas son genre, avait prononcé devant les employés de Bombardier il y a trois semaines pour les rassurer.
Avec son fameux « pas un boulon, pas une pièce, pas un avion ».
Oui, mais là, la réalité vient de nous frapper, et puis il restait rien que, semble-t-il, là, chacun aura son opinion là-dessus, il restait plus rien qu'à être réaliste puis à se lancer dans les bras d'Airbus pour que tout ça continue. Ouais.
Mais je vais te dire, malgré tout, moi, peut-être que je suis idéaliste, mais je trouve que il fallait se battre contre même si ça regarde bien juste le gouvernement américain, mais il fallait se battre contre les droits compensatoires de 300%, même ça.
Mais même si tu gagnes au bout de 2-3 ans, si t'as pas vendu d'avion parce que tout le monde est ses talons.
Je comprends. Mais en même temps, le message que ça envoie, c'est à toutes les fois que Donald Trump sera pas content puis qu'il va imposer une taxe pour essayer de protéger ses marchés, on va dire OK, on va se débarrasser.
C'est exactement ce qu'Amir Kadir de Québec solidaire a dit. C'est la preuve que l'intimidation paie puis Trump a gagné son pari. Yep. C'est bien plate à dire, sauf qu'en même temps, il y a des milliers d'emplois au Québec qui dépendent du succès de la C-Series. Et si ça passe par Airbus, le gouvernement dit « Regarde, je me bouche le nez puis je fais ce qu'il faut. » Chacun se fera son opinion là-dessus. De toute façon, c'est fait.
Là, Mathieu, mercredi, c'est là que ça commence. C'est là que la première bombe tombe, celle qui concerne Éric Salvaille.
Ainsi passe la gloire du monde. Éric Salvaille était au sommet du show business. Puis d'ailleurs, c'est peut-être parce qu'il était au sommet du show business qu'il s'en permettait beaucoup auprès de collègues masculins. Donc, pas besoin de revenir là-dessus. Là, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Donc, première journée, oui, de plusieurs scandales. Et je te dirais que la réaction la plus significative, bien entendu, tout le monde a dit ça pas d'allure, il faut le dénoncer, il faut que les femmes dénoncent. C'était prévisible. Mais je te dirais que la déclaration la plus significative, c'est celle que je vais te faire entendre, c'est celle de la ministre responsable de la condition féminine, Hélène David. C'est drôle que ce soit la ministre responsable de la condition féminine qui doive se prononcer sur des agressions et des harcèlements qui visaient des hommes.
Ouais.
Mais quand même, je te fais entendre Mme David.
Je ne commenterai pas un cas nominatif. Il n'y a pas que les rapports hommes-femmes qui sont en cause là-dedans. Les situations peuvent se passer dans toutes les communautés. Ça peut être des rapports hommes-femmes, ça peut être des rapports hommes-hommes, femmes-femmes. Alors, je pense que c'est un phénomène de briser le silence qui est très important.
Vois-tu, moi, ce que j'ai retenu de cette journée-là, c'était, on prend pour acquis que les agressions, c'est toujours des femmes qui sont les victimes. Mais dans ce cas-là, c'est pas ça du tout.
Non.
C'est des hommes qui en ont été victimes. Alors, ça vaut la peine de dire que c'est un... Personne peut dire ça nous concerne pas parce que je suis un gars puis ça m'arrivera jamais.
Absolument.
Wow, il y a un paquet de gars qui peuvent avoir eu des ennuis de ce genre-là. Puis l'affaire Salvaille l'a bien montré. Donc mercredi, ça a pris toute la place. Il y a eu beaucoup d'actualités le mercredi. Projet de loi 62, sa neutralité religieuse qui a été adoptée, notamment changement de la commission sur le racisme et la discrimination systémique en une autre espèce d'affaire complètement washy-washo. En tout cas, mais tout ça s'est passé sous le radar avec l'affaire Salvaille.
Et là, il y a quelque chose parce qu'évidemment, la dénonciation de plusieurs personnes. Des gestes d'Éric Salvaille, ça vient un peu du mouvement, le mot-clic, moi aussi, la dénonciation d'Harvey Weinstein à Hollywood et tout ça.
Oui.
Mais j'ai l'impression que, puis corrige-moi si je me trompe, Mathieu, ça fait un bout de temps que tu œuvres dans le milieu médiatique, tu connais ça très bien. J'ai l'impression qu'à partir du moment où la presse sort son dossier sur Éric Salvaille, sur lequel il devait travailler depuis longtemps,
okay?
À partir du moment où la presse plus sort le dossier sur Éric Salvaille, les gens qui travaillaient sur Roson, les gens qui travaillaient sur Gilles Parent, les gens qui travaillaient sur Michel Brûlé, tous les journalistes qui recueillaient ces témoignages-là, là, ça met un petit peu de pression, là. Là, ça veut dire, il y a une espèce de momentum. Il faut est-ce qu'il existe ce momentum-là ou c'est juste moi qui fabule?
Il existe un momentum. C'est sûr et certain qu'il y a une telle chose que la concurrence médiatique, mais l'élément fondamental là-dedans, c'est que ça délie les langues et ça permet aux gens de sortir au grand jour.
Aussi.
Parce qu'il y a des cas qui étaient bien documentés, mais de façon anonyme. Nous, comme médias, on peut pas aller publier des choses comme ça sur la foi de dénonciation anonyme. Ça prend au moins une personne qui le dise ouvertement à visage découvert. Et le « moi aussi », hashtag « moi aussi MeToo », ça fait en sorte d'enhardir des victimes à dénoncer ouvertement leur situation. C'est peut-être ça l'élément le plus fondamental dans le mouvement qu'on constate.
Et quels sont les échos des allégations à l'égard de Gilbert Roson qui sont faites quelque part entre mercredi soir et jeudi matin, là?
Oui.
C'est sorti à différents moments, différents endroits.
C'est le jour de la marmotte, essentiellement, parce que c'est encore une fois des questions d'abus de pouvoir pour des gestes d'inconduite sexuelle. Donc, encore une fois, les dénonciations inacceptables, on ne tolère pas ça, on prend pour les victimes. Oui, bien entendu, comme je te dis, c'était la même chose sur Éric Salvaille. Par contre, là, le gouvernement a vu venir un peu une vague de dénonciations et s'est dit, on va réagir tout de suite avant qu'il soit trop tard.
Oui.
On écoute Lucie Charlebois, qui est la ministre déléguée à la Santé publique.
On réagit rapidement parce qu'on anticipe une hausse des signalements et on ne veut pas laisser les personnes à eux-mêmes. Alors, on va être là pour répondre présent à leurs demandes.
Ça veut dire quoi, ça, à réagir rapidement? 1 million $ de plus dès maintenant dans les groupes d'accueil des victimes d'agressions sexuelles. Si on parlait avec... jamais ça explose, les dénonciations, puis on constate là, dans les derniers jours qu'effectivement ça explose, oui. Ben, au moins ils vont avoir les ressources puis les sous pour accueillir ces victimes-là.
Parce que c'est clair que ça délie les langues, mais on parlait avec quelqu'un du Calag de la Rive-Sud tout à l'heure qui nous disait c'est bien cet investissement-là, mais le problème avec un investissement ponctuel comme celui-là, c'est que tu utilises l'argent pour engager quelqu'un, pour subvenir à tes besoins, parce qu'effectivement, il y a plus de dénonciations, mais à partir du moment où le contrat achève, là, ben il faut que ce... Tu sais, par exemple, le fameux million, là, il faudrait qu'il y ait une récurrence à cet investissement-là,
bon,
sinon
tu peux pas garder la personne. Moi, je suis pas le ministre, là, mais j'ai l'impression que s'il y a besoin d'encore de l'argent, il y aura encore de l'argent au moment. Je veux dire, oui, t'as raison, là, mais ça, c'est quelque chose de... C'est pas quelque chose de si difficile que ça à planir, là. Dans le temps comme dans le temps, si j'étais le ministre, je te dirais dans le temps comme dans le temps, on verra. Mais regarde, je vais leur laisser leurs prérogatives.
Ouais, ouais.
On continue, toujours dans la recherche de solutions, parce qu'encore une fois, je pourrais te faire encore entendre des dénonciations, mais dans la recherche de solutions, Manon Massé est revenue à la charge avec la proposition de voir venir un peu essayer d'éduquer les jeunes davantage avec le cours d'éducation sexuelle. Madame Massé.
J'ai pas envie de devenir la personne qui va critiquer à chaque jour ce qui se passe quand il y a question d'abus sexuels. Je pense qu'une façon de faire en sorte que ça l'arrête de ressortir jour après jour, campagne de mots-clics après campagne de mots-clics, c'est qu'il faut s'y prendre au niveau de l'éducation.
Donc, Mme Massé fait cette déclaration-là relativement tôt, jeudi matin. Quelques minutes plus tard, en période de questions, Jean-François Lisée, le chef du Parti québécois, reprend cette affaire-là à son compte et fait la demande directement au ministre Sébastien Proulx de l'Éducation, donc d'aller de l'avant avec des cours d'éducation sexuelle au plus tôt.
Le Québec en entier demande la généralisation du cours d'éducation sexuelle. Et dans ce cours d'éducation sexuelle, on parle de violence sexuelle, d'agression sexuelle. Quand ce cours sera-t-il obligatoire partout au Québec?
Dès cette année, l'ensemble des écoles du Québec pouvaient adhérer et inclure dans leur programme ces cours.
Je vais tenter de l'imposer. C'est-à-dire que je veux faire en sorte que ça devienne obligatoire. Mais j'aimerais ça revenir ici puis vous dire que ça a fonctionné. Parce que si je viens ici puis je crie dans le micro, c'est obligatoire, c'est épouvantable, puis que l'année d'après, il n'y a rien qui se fait, je vais avoir de la misère à vous faire la démonstration que j'ai posé le bon geste.
Alors, t'as entendu le ministre Proulx qui répondait directement à M. Lisée en période de questions. Je te l'ai fait entendre hier en entrevue avec Cogeco Nouvelles. Il nous dit, écoutez, moi, je suis volontaire. Moi, je veux le faire. Mais si j'impose quelque chose aux écoles qu'elles sont pas capables de livrer parce qu'elles n'ont pas les enseignants ou parce que les enseignants sont pas à l'aise, elle dit, je vais me retrouver à pas avoir appliqué la bonne solution.
Mais ça veut pas dire qu'il faut pas se pencher sur le dossier puis tenter de les former, les ressources, puis de les mettre en place le programme, à mon avis.
Comme Mme Massé nous a dit dans le même point de presse, elle dit, ça aura peut-être pas un impact immédiat, puis il y a peut-être une cohorte qu'on aura complètement gaspillée, celle des 10 ou 15 dernières années depuis l'abolition des cours d'éducation sexuelle. Mais au moins, maintenant, remettons le compteur à zéro et tâchons de faire pour le mieux pour que cette espèce de culture d'impunité-là disparaisse.
Et on reviendra entre nous autres là, sur le fameux cours d'éducation sexuelle parce qu'on en a parlé hier. Là. Écoute, moi, ils m'ont appris à j'ai cousu un sac magique dans mes cours de formation personnelle et sociale.
Moi, j'ai fait un beau sac à crayons en cuir. J'ai fait une tirelire.
Non, mais tu sais, on s'entend-tu qu'il y a des affaires qui pourraient être... Moi, il y a des affaires qu'on aurait pu m'apprendre, là, qui auraient été pas mal plus pratiques que d'apprendre à cause d'un sac
magique. J'en ai eu, moi, des cours d'éducation sexuelle à l'école.
Ah oui?
Mais c'était pas, on n'abordait pas ce genre de choses là. C'était vraiment presque un manuel de mécanique là.
C'est ça.
T'avais des dessins. Tout le monde se garochait ses pages roses en passant. Hein. Tout le monde voulait aller voir les dessins.
Comment tu m'as dit ça, Julie, hier?
Ben, moi, je me rappelle d'avoir vu le bâton, ni plus ni moins, là, où on insérait un...
Dérouler un condom sur un bâton
c'est
de bois.
Ça. Ben oui.
Mm-hmm. C'est comment tu m'avais dit ça? Les cours d'éducation sexuelle, ça devrait être plus que mettre une capote sur un bâton.
Ouais, c'est ça.
Non, mais c'est cru, mais honnêtement, ça mérite d'être clair, puis moi, j'adhère à ça.
Et ça dépend tellement de l'enseignant ou l'enseignante aussi, hein?
C'est évident.
Si tu te retrouves avec quelqu'un qui est coincé, ça vaudra rien du tout.
C'est clair.
Si tu es avec quelqu'un qui est à l'aise, là, ça peut être bénéfique.
Mathieu Boivin, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine.
Ben oui, avec plaisir. Bonne journée, bonne fin de semaine.
Bye bye. Mathieu Boivin, notre correspondant parlementaire.